Bienvenue sur Écoute Voyageuse. Je suis Corinne Delaunay et je vous emmène explorer la beauté des mondes, visibles et invisibles. Vous êtes prêts? Allez, on embarque! C'est un voyage bien singulier dans lequel je vous emmène cette fois-ci. Un voyage quantique. Aux commandes, Léna Favre, une Chanel ou un canal. Depuis toujours, elle entend, elle voit, elle est reliée au ciel et à la terre. Elle est entrée au panthéon des Chanel de Mama Édition, c'est d'ailleurs la seule française pour le moment, avec son livre « L'envol vers soi », un énorme pavé coécrit avec ses guides, ses messagers de l'invisible. Je vais reprendre un extrait de la préface de Mishka. Les paroles de ces messagers de l'invisible sont porteuses d'une qualité subtile. Elles agissent sur nous comme un mantra. On n'est plus tout à fait le même, plus tout à fait la même après les avoir lus. Je vous souhaite un bon voyage vers l'invisible avec Léna Favre.
Ce que je dis tout le temps quand on me demande de me présenter, c'est que j'ai déjà eu plusieurs vies en une. J'ai vraiment l'impression dans cette vie-ci d'avoir eu plusieurs parties de vie, si on peut dire ça comme ça. Alors, concernant déjà le fait d'entendre et de voir ce qu'on appelle les channels, moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé vers l'âge de 4 ans, même si à l'époque, je n'en avais pas conscience, puisque pour moi, entendre, c'était quelque chose de naturel, c'était comme ça. Et je pensais du coup que pour tout le monde, c'était la même chose. Donc, ça a été un petit peu compliqué, puisque je me suis aperçue pas à pas que ben non, tout le monde n'avait pas les mêmes perceptions que moi. Alors parfois même pour un enfant, c'est un peu une souffrance parce qu'on a l'impression d'être très différent et très rapidement d'être différent. Alors vers 4 ans, jusqu'à l'âge de... Là j'ai 56 ans actuellement, jusqu'à l'âge à peu près de 40 ans, on va dire que j'entendais plutôt. Aujourd'hui, j'entends, maintenant je vois, c'est-à-dire que j'ai des images et j'ai aussi beaucoup de sensations dans le corps qui m'indique si ce que j'entends et je vois est juste, si la personne a des blocages et à quel endroit, etc. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus puissant au fur et à mesure que moi aussi, je continue à travailler, comme on dit, sur moi. Plus je me polis, plus j'ôte tout ce qui fait obstacle et plus les perceptions sont évidemment plus fluides. Alors déjà, dans ma pratique actuelle, en fait, j'ai aussi... Une autre corde à mon arc qui n'a pas été choisie, c'est ainsi. Je facilite aussi l'assimilation de toutes ces énergies qui arrivent là aujourd'hui, on en parlera plus loin. Donc je suis une sorte de canal énergétique qui permet en fait aussi des mises à jour internes de qui nous sommes. Dans d'autres vies, je vais parler de ça, puis après je raconterai un petit peu ce qui s'est passé dans celle-ci. J'ai été de nombreuses fois guérisseuse et chamane. C'est pour ça aussi que parfois quand je parle, on me dit que pour une Chanel, je suis assez éthérée. Mais c'est parce que j'ai gardé l'énergie de la chamane, je me sens chamane. Même si aujourd'hui, dans ce que je propose dans mes pratiques, je n'utilise pas le tambour, mais j'ai des tambours autour de moi et c'est une pratique que j'utilise pour moi. Donc on va dire que j'ai bien les pieds sur terre et j'ai la tête dans les étoiles. Alors ce que les gens disent de moi, c'est que je suis une sorte de lien justement entre la terre et les étoiles. C'est un petit peu ma mission dans cette vie-là. Je suis aussi une sorte d'accoucheuse ou de nettoyeuse. Je suis quelqu'un qui accompagne les personnes à aller chercher les parties d'elles-mêmes qu'elles ont perdues du fait des événements traumatiques qu'on a pu vivre. Et dans ce sens-là, pour ceux qui connaissent, ça fait largement penser au recouvrement d'âme. Je reviens un petit peu quand même à mon parcours de vie. J'ai pas toujours exercé, entre guillemets, ou en tout cas pratiqué comme je pratique aujourd'hui. Lorsque j'ai été adolescente, je suis née dans une famille qui était assez conventionnelle, assez classique, si on peut dire ça, où tout ça n'est pas entendu. C'est-à-dire que je pense que c'est très présent, ce sont des gens très connectés, mais on peut pas en parler. Et c'est quelque chose qu'ils ont du mal à entendre. Donc, il a fallu que je compose avec ce milieu familial-là, au moins jusqu'à mon adolescence. Et en rentrant un petit peu dans les cases, comme on dit, donc j'ai fait des études supérieures, puisque je suis née dans un milieu d'enseignants où c'était très important, tout ça, plutôt dans le social. Et c'est vrai qu'à un moment donné, donc j'ai travaillé dans tout le secteur social, d'abord comme travailleuse sociale, j'ai accompagné beaucoup d'allocataires du RSA avec lesquels j'ai fait de superbes projets, j'ai vraiment une une manière, moi, de voir les choses qui est foncièrement différente. C'est ce qui m'a aussi amené à sortir après de ce secteur-là parce que le cadre devenait un peu étroit. Mais je suis vraiment en mode projet avec les gens dans une autre perspective. Ensuite, j'ai été directrice de lieux socio-culturels, donc à la fois avec une partie sociale et puis à la fois avec une grande partie culturelle où j'ai pu organiser des concerts sur un secteur géographique qui était dit zone prioritaire, donc avec des gens qui vivaient des situations assez compliquées. Et on a pu faire venir des artistes comme Grand Corps Malade, comme Idir, des tas de gens comme ça. Donc ça a été une période super pour moi. J'ai beaucoup partagé avec les femmes africaines et j'ai vraiment ressenti tout ce lien puissant qu'il y a entre les femmes dans ces cultures-là et j'ai adoré ça. Vraiment, c'était quelque chose de magique pour moi. Et puis à un moment donné, j'ai même fait de l'enseignement. Je me suis formée aussi au coaching, hein. J'ai été coach et j'ai enseigné dans des écoles de travailleurs sociaux. Parce que j'avais une envie de transmettre ce que j'étais, ce que je connaissais d'une manière aussi différente. Donc, dans toute ma pratique, on a toujours dit que j'étais à la fois une première de cordée, hein, c'est un peu ce que je me sens être aujourd'hui, je ne suis pas la seule, hein, qui est là pour, disons, innover, tirer un petit peu ce monde vers d'autres possibles et puis apporter un autre éclairage aussi sur ce que l'on peut vivre actuellement. Donc, j'ai toujours quand même un fil rouge, c'est accompagner, hein, ça on va le voir, et puis transmettre des connaissances, écouter les autres et essayer de respecter leur rythme, qui ils sont, dans beaucoup de bienveillance. Hein. C'est vraiment quelque chose auquel je tiens particulièrement. Et puis juste pour conclure, mais aujourd'hui, en fait, ma pratique, elle est multiple. D'un côté, j'ai toute une partie accompagnement par des canalisations et puis une forme de soins dont on pourra parler. Et toute l'autre partie qui est maintenant une attente de ce qu'on appelle les guides, hein, mes guides, qui est de transmettre plus largement, d'où justement l'envol vers soi. Voilà ce que je peux dire synthétiquement.
Comment tu as fait pour te polir? Tu nous parles de que au fur et à mesure, tu as pu te polir. Comment ça s'est venu en toi, cette idée de travail sur toi?
Ça a été toujours une évidence, ça, depuis l'âge de 20 ans, vraiment, c'était qu'il fallait que j'aille chercher tout ce que je ressentais qui bloque. Pourquoi? Déjà, c'est très simple et concret. C'est parce que je suis arrivée dans une famille où j'ai vite senti que même si tout en apparence semblait très, très clair, très limpide, il n'y avait pas énormément en apparence de gros blocages, de gros chocs générationnels, etc. Je me suis aperçue finalement que ce n'était pas du tout le cas, que derrière ce joli rideau, il y avait aussi des gens qui avaient vécu des grosses choses. Je pense à une de mes grand-mères qui a été résistante dans le maquis, je pense à mon papa qui du coup a été un petit peu laissé de côté le temps qu'elle n'était pas là. Bon, tout ça a laissé beaucoup de marques dans la lignée, beaucoup de peur surtout. Et à un moment donné, je me suis dit que je ne pouvais absolument plus, moi, être, comment dire, emprisonnée par toutes ces peurs qui étaient très fortement véhiculées. Et ça m'a amenée à me positionner assez fortement, puisqu'à 17 ans, j'étais obligée de claquer la porte, entre guillemets, de la maison, hein, et de planter mes études pour avoir un job et puis finalement rebondir différemment après, parce qu'il fallait vraiment que je m'affirme. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas que d'être dans la colère qui allait aider les choses, ni dans le ressentiment, mais de comprendre que chacun faisait ce qu'il pouvait à son rythme et que ma part à moi, si j'avais choisi cette famille-là, était peut-être justement d'aller nettoyer ce que les autres n'avaient pas nettoyé. Et ça fait lien avec ce que j'entends des guides aujourd'hui. Souvent, nous les humains, on se demande pourquoi et comment on doit faire les choses. Et le message là qu'ils me redisent depuis très peu de temps, mais très fréquemment, c'est ne vous demandez pas pourquoi et comment, puisque ça, c'est notre affaire. On va vous aider après à vous mettre sur votre chemin les bonnes personnes, les bons événements. C'est juste accepter par la méthode qui vous convient le mieux, il n'y en a pas qu'une et ça évolue avec nos périodes de vie, osez, ayez le courage d'aller voir ce qui bloque dans votre générationnel, dans votre vie, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a blessé, qu'est-ce qui n'est pas fluide. Et c'est comme ça qu'ensuite, après, on arrive justement à se polir. C'est à force d'oser se faire face à soi-même, d'oser aller voir aussi dans la lignée ce qui s'est pas bien passé ou ce qui a été mal vécu, sans être jamais ni dans la colère ni dans le jugement. Alors, je dis pas que c'est facile et que je l'ai toujours été, hein, moi, hors colère. Bien sûr, j'ai eu de la colère comme tout le monde, mais en tout cas, je veille vraiment aujourd'hui à être vigilante sur ce point-là, puisque quand on est en colère, ça nous bloque en fait hein, dans notre évolution. Ça n'apporte rien aux personnes contre lesquelles on est en colère, et puis nous, ça nous empêche d'avancer. Donc, ce n'est pas la bonne piste. Donc, simplement, c'est effectuer un travail sur soi. Alors, moi, je propose une forme de travail poussé avec les personnes. Déjà, les canalisations, mais une autre forme de séance sous hypnose. Il y a plein de méthodes. Il y a la kinésiologie, il y a la micro-kiné. Et puis, je ne vais pas toutes les citer. La bonne méthode pour les personnes, avec, je dirais, quand même une vigilance qui est qu'un thérapeute, entre guillemets, si on peut s'appeler comme ça, c'est quelqu'un qui doit permettre à l'autre de retrouver son pouvoir et d'être autonome. À partir du moment où on est dans ce cadre-là, c'est juste. À partir du moment où on devient dépendant d'un thérapeute pour choisir sa vie, pour œuvrer, c'est plus juste. Et là, on doit avoir les clignotants rouges qui s'allument. On n'est pas des gourous, surtout pas.
Oui, c'est important de le
Voilà.
répéter. Je suis d'accord avec toi. Et surtout, est-ce que tu penses qu'on peut quand même arriver à le faire aussi par soi-même?
Bien entendu. Bien entendu, on peut le faire par soi-même et c'est une grande partie du travail. Alors après, ça aussi, quand les gens me disent est-ce qu'il faut absolument méditer, par exemple, ben, moi, je dis ce que j'entends et puis aussi ce que je ressens personnellement, hein, c'est qu'on peut méditer en cuisinant, on peut méditer en jardinant, on peut méditer en allant se promener, on peut méditer en s'occupant d'un animal ou d'enfant. En fait, pourvu qu'on soit connecté à soi. On peut écouter ce qu'on ressent, hein, c'est vraiment écouter son intuition. Alors l'intuition, c'est quoi? C'est la petite voix qui nous dit les choses en premier lieu. Puis qu'on fait vite taire parce que le mental souvent vient et nous dit mais non, mais ça, c'est pas possible, ou c'est pas ça. Là, on commence à se perdre. Il faut vraiment écouter ce qu'on ressent, se connecter à soi. Et puis ça va faire lien aussi avec l'envol vers soi. Donc, du coup, à un moment donné, moi, les guides m'ont dit, tu n'as plus le temps de transmettre en individuel suffisamment. Et là, c'est une période particulière. Donc, ils considéraient mes guides qu'il y avait urgence de transmettre. Je suis pas la seule, on est nombreux. Chacun, on transmet en fonction de qui nous sommes et on parle à des personnes particulières, hein, je dirais. Il en faut pour toutes les personnes. Donc, du coup, L'Envol a été un livre qui se veut être à la fois un manuel vibratoire, c'est-à-dire que ce que me disaient les guides, et c'est ce que me renvoient les personnes qui l'ont lu d'ailleurs maintenant, donc je suis très heureuse de ça, c'est un livre qu'il ne faut pas forcément lire en voulant tout comprendre, puisque l'idée, c'est de sortir du mental, et c'est plutôt de se laisser imprégner de la musicalité des mots et de l'énergie des mots. Et ensuite, c'est une sorte de dictionnaire, d'encyclopédie de ce qui se passe actuellement, hein, ce qu'on appelle sur Terre, on y reviendra, l'ascension vibratoire. Et là, il a justement été écrit non pas par chapitre, mais par thématique, pour que les personnes qui ne voudraient pas le lire de A à Z puissent aller chercher une thématique qui leur parle un jour, sur laquelle ils ont besoin d'un éclaircissement, d'une réponse, ou ouvrir au hasard une page et se laisser guider par l'intuition et avoir la réponse qui est juste pour eux à ce moment-là. Donc c'est un livre qu'il faut annoter, qu'il faut crayonner. Aujourd'hui, là, j'entendais encore que c'était un cahier d'exercice. Donc c'est un moyen aussi de travailler tout seul. Et du coup, moi, dans ma pratique, je l'utilise ainsi. C'est-à-dire, je dis aux gens, moi, mon idée, c'est pas du tout de vous garder à faire des séances et des séances. C'est pas utile. C'est vraiment que vous puissiez aussi, vous, par les moyens qui sont les vôtres, ça peut être aussi de jouer de l'instrument de musique, ça peut être plein de choses, de trouver les bons moyens pour vous reconnecter à vous-même et être simplement heureux dans votre vie, épanoui et en accord avec qui vous êtes. Donc voilà, l'envol, c'est un moyen. Ouais, c'est un moyen qui est offert aux personnes à qui il parle de pouvoir trouver des réponses. Et comme il est vibratoire, ça, moi, je l'ai senti très fort quand je l'ai écrit, hein. Il y a des moments où il fallait que je m'arrête parce que je suffoquais. J'ai l'impression d'étouffer. Je sentais que vibratoirement, c'était tellement puissant qu'il fallait que j'aille marcher un peu ou m'occuper de mes animaux. Et je revenais. Et du coup, c'est un nettoyage, en fait. C'est comme s'il nous nettoyait, ce livre. C'est vraiment l'idée que j'en ressens aujourd'hui. Il n'est pas du tout dans l'intellect, en tout cas, même si à première apparence, ça semble très théorique.
Tu parles de plusieurs guides, dont un qui s'appelle Pastor et après un collectif. Est-ce que tu peux nous expliquer qui sont ces guides?
Alors,
S'ils ont
déjà,
toujours été avec toi?
Oui, alors je vais dire plusieurs choses. Déjà, dont une qui va faire rire, c'est qu'à un moment donné, moi, donc j'utilisais aussi le support des tarots et des oracles.
Oui.
Et quand je tirais les tarots pour moi, on me disait, mais tu es Chanel, tu vas être Chanel. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Pendant des années, ça a été ça, parce que c'était tellement fluide pour moi que J'arrivais pas trop à savoir ce que c'était. C'est pareil quand on nous dit elle voit et elle entend. Évidemment, je vois pas quand les guides me parlent avec mes yeux physiques, hein, c'est avec les yeux de l'âme, mais en même temps, j'ai des images très très précises, comme des scènes. Et quand j'entends, j'entends, mais c'est pas comme quand on se parle là, c'est vraiment entendre. Alors, ce que je découvre aujourd'hui, c'est que c'est des sortes de codes vibratoires qui sont transmis en mots. Voilà, c'est ça. Alors, je vais revenir à Pastor. Pastor, est un guide qui intervient déjà lorsque je dois transmettre des messages collectifs. Hein. C'est pareil pour le collectif. Pour moi, en tant que Léna, j'ai d'autres guides, c'est pas les mêmes. Il se peut que Pasteur ou le collectif m'envoie des messages, mais je sais toujours qui parle en tout cas. C'est pas du tout le même ton, c'est pas du tout les mêmes mots, c'est pas du tout la même intonation, c'est pas du tout le même humour. Pasteur a été un guide qui a parlé dans les années 80. Alors ça aussi, quand on parle de synchronicité, c'est très drôle, hein. J'avais une vingtaine d'années, à travers une médium qui s'appelait Ghislaine, hein, qui était à la frontière suisse et sur la Haute-Savoie. Et qui faisait en fait des conférences juste en collectif, elle, où les gens posaient des questions dans un chapeau, hein, dans des petits mots, et puis elle tirait trois ou quatre thématiques et elle répondait en collectif. Donc il ne s'était exprimé à l'époque qu'à l'oral. Et moi j'allais voir cette médium, je me sentais poussée à y aller, elle me parlait énormément dans ce qui était dit. Et puis je me suis aperçue, ben, quand on m'a demandé d'écrire l'envol, mais depuis quelques années déjà, que Pastor souhaitait s'exprimer maintenant à travers moi, et il m'expliquait que cette fois-ci, il fallait que sa parole soit portée à l'écrit, puisque, comment dire, on est dans une période tellement particulière que les gens s'éveillent, entre guillemets, par vagues, et que c'est important que chacun puisse avoir des traces écrites pour lire et relire et comprendre, peut-être différemment en fonction de comment on évolue les choses d'une année sur l'autre. Donc, il transmet maintenant par écrit. Par contre, il s'exprime toujours à travers des channels qui permettent des canalisations très concrètes, c'est-à-dire fluides et concrètes. Lui, son idée, c'est vraiment que les choses soient compréhensibles par le maximum de personnes, qu'on puisse les illustrer, hein, de choses très quotidiennes, et qu'en plus, on puisse avoir beaucoup d'humour, parce que les guides ont beaucoup d'humour. Donc voilà, quand on lui demande de se définir, il l'avait dit à travers cette médium, il disait qu'il était juste une très vieille âme qui avait eu beaucoup d'incarnations terrestres, mais qui n'était pas revenue depuis longtemps, et qu'il fallait l'envisager comme une flamme, donc une petite lumière. Donc ça, c'est Pastor. Le collectif, c'est compliqué parce que le collectif, c'est un ensemble de guides, c'est un ensemble d'êtres de lumière. Il y a des maîtres ascensionnés. Alors, les maîtres ascensionnés, c'est qui? On va le faire très simple, hein. C'est pas l'idée de faire de l'intellectuel et du mental. Ce sont des êtres qui ont eu de nombreuses, nombreuses, nombreuses vies terrestres et qui sont arrivés à un moment où ils ont été pleinement réalisés, si on peut dire ça. Alors, certains, très peu, décident de revenir par période sur Terre, hein, bon, pour accompagner, et d'autres ne reviennent pas, mais en tout cas, ils s'expriment à travers nous. Voilà, donc il y a des guides de lumière, il y a des êtres de lumière, il y a des maîtres ascensionnés dans ce collectif. Et pour ceux qui peuvent entendre ça, chacun est libre, il y a aussi des êtres d'autres dimensions qu'on pourrait appeler stellaires ou autres. Hein. Voilà, donc il y a plusieurs types de personnes et je sais quand ils parlent. Quand un prend la parole au titre du collectif, il me le signifie tout le temps. C'est là que je mets collectif, hein, tout le temps. Mais souvent, de toute façon, alors c'est un qui prend la parole pour l'ensemble du collectif. Par contre, quand je travaille en séance individuelle, je peux avoir le collectif ou pasteur qui s'exprime. Je sais toujours qui parle, mais parfois les guides de ce collectif, et c'est ce qui parfois est compliqué pour un être humain, me parlent à trois à, ou quatre en même temps, à une vitesse particulière, donc ça c'est extrêmement fatigant pour l'organisme. Donc dans ce cas-là, je leur demande de s'exprimer les uns après les autres, mais ils se complètent énormément dans ce qu'ils disent. Donc voilà, collectif, c'est ça, si on peut dire ça comme ça, c'est cette entité globale.
Et ça t'est venu comment alors? C'était pendant le premier confinement, tu m'as raconté?
Déjà, il faut que j'explique quelque chose qui surprend tout le monde, mais je ne vais pas inventer. Au début, je me disais, je ne dois pas être normale quand on me disait ça. Puis finalement, j'ai entendu, ils m'ont dit, mais non, mais dis-le, quoi, dis-le, c'est tout simple. Alors, il y a des personnes, en fait, qui sont obligées d'être dans Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit, nous, de l'extérieur, les humains, dans des sortes d'états de transe pour canaliser. Moi, je dirais qu'on est tous dans des états modifiés de conscience quand on capte nos guides, mais chacun peut le faire, ça, hein, d'une certaine manière. Moi, il suffit que je sois dans un certain état vibratoire, c'est-à-dire que j'élève mon taux vibratoire pour que je les entende. Si par exemple je me promène dans la rue, je ne vais pas essayer de décrypter ce que vit chacun, puis je trouve que c'est intrusif, donc je ne le fais pas, je ferme les écoutilles, j'entends rien. Par contre, dès que je m'assois à ma table de travail, ou je parle de mes séances, ou dès que je m'assois devant mon ordinateur quand j'écris, j'ai juste à me centrer, à être dans un état particulier quand même de relaxation, et c'est parti, j'ai rien d'autre à faire que ça. Alors après, c'est vrai aussi pour ceux qui ont cette ouverture-là que ce que me disent les guides, c'est que cette incarnation qu'on vit tous, c'est un peu, dans cette période particulière, la synthèse de beaucoup d'autres qu'on a vécu et on est venu manifester notre plus beau chef-d'œuvre. C'est ce qui m'explique. En étant capable de récupérer toutes nos compétences des autres vies. Et c'est le cas pour moi, puisque dans plein de vies, j'ai vécu des choses pas très simples, mais parce que j'étais thérapeute, j'ai eu le sort de tous ceux qui étaient entre guillemets les sorcières, les thérapeutes, etc. Je les chamane. Et du coup, aujourd'hui, ça m'a permis cette fluidité-là. C'est-à-dire que j'ai pas besoin forcément de l'accompagnement du tambour pour pouvoir capter. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai juste besoin, alors enfin, j'ai juste besoin. C'est très exigeant. Ça, il faut que je le dise quand même, c'est que depuis toute petite, au début je ne savais pas pourquoi, il y a une exigence particulière dans mon hygiène de vie. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui ne peut pas du tout, alors quand je dis pas du tout, je fais de petites exceptions, mais rares, boire d'alcool. Je n'ai jamais fumé, j'ai eu toujours une alimentation très particulière. Et plus j'avance, et c'est valable que pour moi, hein, parce que je cherche à convertir, mais vraiment personne, puisque je pense que chacun a sa voie. Aujourd'hui, je ne peux pas manger. Bon, je ne mange pas de viande par choix, par contre, ça c'est certain, mais si j'en mange, je sens tout de suite dans mes canalisations que ça ne va pas. Je ne peux plus consommer de produits laitiers, sauf un tout petit peu de produits à base de lait de chèvre, et je ne mange quasiment plus de gluten. Donc mon alimentation est quasiment végétale, un petit peu de céréales, et c'est tout. Donc en ce sens-là, c'est très très exigeant. Hein, jamais eu de tabac, jamais eu de choses comme ça. Et c'est plutôt ça qui me garantit la fluidité. C'est-à-dire que si je fais des écarts, je sens directement que là, je descends vibratoirement et que ce que je capte n'est pas juste. Donc, je ne peux pas faire d'écart, en fait.
Et comment nous, tout un chacun, on peut augmenter nos taux vibratoires? Je sais que tu l'expliques dans l'envol vers soi, enfin c'est toute l'explication de l'envol vers soi quelque part, d'augmenter son taux vibratoire, mais est-ce qu'il y a des astuces aussi? Il faut se connecter à soi et essayer de sentir ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Comment on peut faire?
Alors déjà, moi je vais rester sur des choses très très concrètes parce que je pense qu'après les personnes peuvent approfondir ben justement grâce à l'envol et grâce à d'autres écrits aussi. Hein. Déjà, faire attention à ce que l'on mange. J'ai envie de dire que ça, et je veux bien entendre que certaines personnes matériellement ben, puissent être limitées parce que même si ça se démocratise beaucoup, le bio, etc., reste encore cher. Mais en tout cas, c'est manger des aliments les plus naturels possibles. Quand on peut les cultiver soi, je dirais que c'est vraiment le retour vers ce qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui, hein. Quand on ne peut pas, au moins déjà, manger des aliments sains. Bon, c'est clair que l'air que l'on respire a un effet. Après, chacun est là où il peut être et où il a choisi d'être quelque part aussi, hein. Mais ça, c'est pareil, l'air compte, nos pensées, beaucoup. C'est-à-dire que là, par contre, qui qu'on soit et où qu'on se trouve, là-dessus, ça ne coûte rien. On peut travailler ça seul, c'est comprendre que tout ce que l'on pense et tout ce que l'on dit laisse un impact. Alors, c'est clair que quand on parle de pensée positive, si on le dit comme ça, c'est complètement abstrait parce que les gens se forcent à essayer de penser positivement et puis c'est pas naturel. C'est plus simplement comprendre que il faut surveiller les mots qu'on utilise. Quand, par exemple, j'ai utilisé des mots très quotidiens, parfois même un peu vulgaires, je l'ai vécu avec une personne, ça c'est pour ça que je le dis. Quelqu'un qui dirait toute sa journée, ça me gonfle, ça me tue, etc. Ça, c'est des mots à vraiment éviter parce que comme tout se finit par se matérialiser, hein, on envoie des choses dans le vibratoire, puis en plus, ça, après, ça se cristallise petit à petit. Ben, on peut tout simplement se retrouver plombé. Alors, bien sûr qu'il y a plein de facteurs, hein, faut toujours nuancer, mais développer une maladie, développer des choses comme ça. Donc, pour garder un certain niveau vibratoire, faut surveiller son langage, veiller à nos pensées aussi. Et c'est clair que quand on commence à faire ce travail-là, vu qu'on a des mécanismes tous, hein, qui sont des habitudes, et puis aussi la résultante de blessures. C'est un exercice qui est très, très exigeant. C'est-à-dire que quand on a une pensée qui n'est pas juste, qui est triste, qui est négative, si on peut dire ça comme ça, il faudrait, ça c'est un exercice qui marche très bien, tout de suite se dire direct derrière, j'annule ce que je viens de penser. Ça fonctionne dans le vibratoire, ça. Et je le redis autrement. Alors après, il y a plein d'auteurs, je pense à Jacques Martel, hein, qui a beaucoup travaillé sur aussi ces points-là, qui aident à travailler ces points-là. Mais la manière dont on pense et dont on parle et dont on vit, c'est la clé de base. C'est-à-dire que si on se met à lire, à lire, à lire, et ça je le vois moi avec certaines personnes que j'ai accompagnées, des tas de livres plus spirituels les uns que les autres, si on n'a pas l'hygiène de vie de base, on perd son temps. Parce que quelque part, bah on n'a que la superficie et on n'applique pas dans le concret, dans la matière. Or, on est incarné. Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est déjà l'illustrer dans notre vie quotidienne, tout ça. Et puis, c'est aussi s'autoriser. Et ça, ce n'est pas toujours simple parce que déjà, la vie telle qu'elle est conçue encore aujourd'hui ne le permet pas toujours. Et puis aussi, on a été conditionné à ne pas s'autoriser forcément à se reposer pour certains sans culpabilité. C'est d'accepter d'avoir des moments où on est juste avec soi-même. Alors, je dis pas où on fait rien, parce que si on peut faire quelque chose, si on fait du jardin, si on caresse un animal, si on va se promener, quelque chose qui nous fait du bien. Mais on est juste avec soi-même. Ça permet énormément de se recentrer, de s'élever vibratoirement, de se nettoyer de tout ce qui n'est pas à nous, parce qu'on est tous et toutes des éponges. C'est-à-dire que penser qu'on est totalement libre de nos vies et qu'il n'y a que nous là-dedans, ce n'est pas possible. Le collectif nous impacte forcément. On est des êtres humains d'amour. Donc, c'est aussi être capable de savoir ce qui est à nous, de savoir ce qui n'est pas à nous et de laisser de plus en plus de côté ce qui n'est pas à nous, justement, de s'en libérer de ça. C'est très, très important aujourd'hui. Donc, déjà, c'est une hygiène de vie de base. Et puis après, c'est vrai que pour ceux qui aiment ça, ça peut être lire un livre qui va nous élever en vibration, qui va nous aider à maintenir une vibration. Ça peut être écouter une musique, ça peut être peindre, ça peut être faire n'importe quelle activité qui nous plaît. Il y a vraiment plein de pistes. C'est chacun qui le sent, ça, j'ai envie de dire.
C'est important ce que tu as souligné, de dire qu'on était tous des éponges, parce que c'est là où vient la notion de non-dualité. Le fait qu'on est tous interconnectés, la planète, les végétaux, les minéraux, les humains et la galaxie, je dirais, enfin même toutes les autres planètes. Pour toi, c'est un des passages, enfin, dans l'envol vers soi, tu en parles de ça justement.
Oui, et ça c'est vraiment très important. Alors, je vais dire deux choses. Il y a une chose qui est très importante que les personnes entendent parce que quand on leur dit ça, souvent ça soulage déjà, ça fait du bien. Et on le vit tous, surtout actuellement dans nos familles. Je vais dire juste deux mots pour que ça puisse être compris. Actuellement, quand on parle d'ascension, ça peut paraître très hermétique aussi comme terme. Ça veut simplement dire que la vibration terrestre globale s'accroît très très rapidement. Hein, et là, ça s'accélère. Et du coup, avec elle, l'énergie et la vibration de tous les êtres qui vivent sur la Terre, de tous les règnes qu'ils soient. Donc, chacun de nous, déjà, ce que disent les guides dans l'envol, c'est qu'on est comme si on était dans une centrifugeuse électromagnétique, une sorte de grosse essoreuse à salade, où on est propulsé à la fois vers une autre manière d'être, c'est-à-dire vers nous-mêmes, vraiment, et retenu, tant qu'on n'a pas pu suffisamment nettoyer tout ça, par tout cet ancien qui n'est plus nous. Alors déjà, ça, c'est épuisant. Il y a énormément de mises à jour de l'ADN, il y a plein de choses comme ça. Et du coup, le plus important dans cette période à comprendre, c'est que ce qui est attendu de nous là maintenant sur Terre, et ça soulage déjà quand on entend ça, c'est pas forcément de faire tout de suite des grandes choses, c'est d'être nous-mêmes, vraiment d'être nous-mêmes. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas si simple que ça. Puisque ce nous-mêmes, il est la résultante d'une éducation, d'une société dans laquelle on vit, et pour ceux qui ont cette ouverture de toutes nos vies antérieures et de notre générationnel. Et c'est ça qu'il faut aller questionner pour vivre mieux, si j'ai envie de dire, et se libérer. Donc du coup, être nous-mêmes, c'est l'essentiel. Et avec ça, le deuxième volet qui n'est pas simple, c'est que certes, on arrive dans une famille, dans une société, et on est tous connectés, mais en même temps, les guides nous disent, aujourd'hui, commencez par vous occuper de vous avant de vouloir aller sauver la planète entière, puisque à partir du moment où vous allez être reconnecté à qui vous êtes, vous allez pouvoir briller la jolie lumière que vous êtes, ça va aider tous les autres autour à se réveiller. Et du coup, c'est aussi accepter que l'on ne peut pas sauver tout le monde autour de nous. C'est-à-dire que dans nos familles, il se crée parfois des gouffres, et avec nos amis en ce moment, c'est qu'on voit de nouvelles personnes arriver, puis d'autres s'en aller de notre environnement proche. Alors, je dirais s'en aller à tout niveau du terme, hein, d'ailleurs. Mais c'est simplement parce que chacun a son chemin et que la seule chose qu'on nous demande, c'est d'être dans la compassion. C'est-à-dire que comprendre que l'autre fait ce qu'il peut au rythme qui est le sien et que ça, c'est lié justement à plein de choses. À qui il est, à ce qu'il est venu faire dans cette vie-là, à sa famille, à la manière dont il perçoit les choses, à ses autres vies, à son générationnel. Donc on peut être simplement dans la compassion, mais il ne nous est pas demandé de vouloir sauver, porter, tirer tout le monde. Ça, il faut le lâcher déjà. Et en général, quand on commence à comprendre ça va beaucoup mieux. Ça enlève un sacré poids sur les épaules. Donc vraiment, c'est important de comprendre que la personne la plus importante, et c'est pas ce qu'on nous dit souvent dans les... Et là, c'est pas un jugement que je dis, hein, c'est un fait. Dans les sociétés marquées par certaines religions, on nous a appris surtout à renoncer à nous-mêmes et à être plutôt au service des autres. Or, il faut faire le mouvement inverse. C'est-à-dire qu'il faut penser à soi pour pouvoir être épanoui, être complet, être l'être qu'on est venu faire pour le partager avec les autres. Alors, je vais faire un petit aparté, mais qui va donner des clés aussi. C'est pareil dans le couple. C'est-à-dire que pourquoi on souffre tous, hein, moi ça m'est arrivé aussi, dans des couples parfois, c'est parce qu'en fait, on n'a pas compris à un moment donné que l'autre n'était pas là pour nous porter, ni pour combler nos besoins ou ce qu'on n'a pas. Mais plutôt qu'on était là pour chacun être pleinement qui nous sommes et partager cette complétude-là. Et quand on commence à œuvrer sur cette voie-là, alors c'est un peu périlleux parce que parfois on voit des personnes s'en aller de notre environnement, hein. Mais en tout cas, on commence à être plus libre, mieux dans sa vie. C'est vraiment très très important ce point-là.
Je voulais revenir sur le fait que la Terre a ascensionné. Et est-ce que ça a à voir aussi avec la résonance de Schumann? Parce que ça, c'est un fait réel que tout le monde, même les sceptiques, peuvent aller voir. On se rend compte que la résonance de Schumann est de plus en plus forte, reste en haute intensité très très longtemps.
Oui,
Ça représente
c'est ce
ça?
dont je parlais. C'est ce dont je parlais au départ de ma longue envolée, là. C'est qu'en fait, la Terre, au départ, elle avait une vibration d'à peu près 783, 784 Hz. Et là, bon, alors après, on pourra en parler sommairement, même s'il ne faut pas se perdre intellectuellement là-dedans. Mais on fait des pics à plus de 80, 100 Hz régulièrement. Et maintenant, on se maintient sur des fréquences comme ça. Et du coup, certaines personnes un peu plus sensibles le sentent largement. On a des bourdonnements d'oreilles, on a des palpitations, on a l'impression de, à un moment d'être là. Il y a des moments d'être très heureux, des moments d'être très triste. Enfin, il y a tout plein d'ajustements qui sont liés à cet accroissement de vibratoire de la Terre et ça s'accélère. Hein, cet accroissement vibratoire, il est aussi dû au fait qu'il y a une lumière puissante là, qui arrive sur Terre, hein, qu'on appelle une puissante lumière photonique, ils en parlent dans l'envol. Qui arrive en fait du soleil central qui est Alcyone. Bon, ça c'est théorique, mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui retourner en arrière. Et les personnes qui s'accrochent à vouloir résister justement à cette puissante énergie ne font que se saboter, elles cristallisent des mal-êtres, voire des maladies, parce qu'en fait, on est obligé de le suivre ce mouvement-là à partir du moment où on a choisi de rester sur Terre. Et pour le faire, pour ce faire et pour le vivre mieux, ça fait le lien avec tout ce qu'on a déjà dit, c'est de travailler à se libérer de tout ce qui est triste, de tout ce qui n'est pas à nous, de tout ce qui est trop lourd, et aussi d'adapter notre alimentation et notre manière de vivre à ce que l'on ressent chacun, pas à pas. Il n'y a pas une alimentation unique, il y a des choses qui sont justes pour chaque personne à chaque moment. Alors après, quand même, une petite aparté, ce que nous disent les guides, et ça, c'est quelque chose que moi, je sens profondément, mais ça n'engage que moi, c'est qu'on n'est plus fait pour manger de la chair animale à grande échelle. On peut en manger de temps en temps. Pourquoi? Bah déjà parce que vibratoirement, ça nous maintient dans des vibrations plus basses et dans la souffrance de l'animal quand il a été tué, hein, même si on le fait correctement. Alors quand on en mange, c'est bien de remercier l'animal, d'être conscient et puis de manger des animaux qui ne sont pas pleins de produits chimiques aussi. Mais en tout cas, ça nous abaisse vibratoirement et aussi ça fait lien avec un autre point qui m'est très cher parce qu'il y a une autre partie de ma vie qui est très importante pour moi, c'est la communion avec les animaux. Pour moi, ils font partie de moi. Hein. C'est vraiment important. C'est que les animaux sont venus nous accompagner à vivre cette période-là et que plutôt de les manger, on a à collaborer avec eux pour pouvoir s'aider mutuellement à franchir ces étapes. Voilà. Mais oui, on est en train de monter, monter, monter en vibration. Et à chaque pleine lune, moi, je n'étais pas forcément très sensible à ça. Je vais dire que j'encaisse bien les énergies. Mais là, je le sens. Puis deux pleines lunes, c'est très, très puissant. Alors après, ça fait lien avec ce que certains ont pu entendre. Ils en parlent un peu dans l'envol, mais les guides nous disent aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être dans l'intellectuel. C'est avec les différentes dimensions. Quand on dit on fait des pics en cinquième dimension, ça veut simplement dire qu'on arrive à un certain niveau vibratoire et beaucoup d'entre nous, du coup, sont déjà dans ce niveau vibratoire-là. Alors, quelle sensation ça peut faire? Moi, je le vis régulièrement aussi. Et ça, je vais te dire aussi pour ceux qui le vivraient, parce que si on n'a pas toutes ces notions, on peut se dire, mais je vais pas bien, je me mets à débloquer. C'est que quand on sort de chez soi, qu'on prend sa voiture et qu'on fait quelque chose, on a l'impression de plus être sur la même planète que tous ceux qu'on voit. Quelque part, c'est pas si faux. C'est-à-dire qu'on est simplement dans ce monde, mais on n'est plus de ce même monde. C'est-à-dire que vibratoirement, on est sur un autre espace-temps vibratoire. Et ça peut être déstabilisant. Mais il faut pas s'en inquiéter. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à vivre notre quotidien. Après, certes, à un moment donné, ça peut remettre en question notre travail, les gens avec qui on vit, etc. Hein, ça, c'est sûr. Mais c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec la 3D, 4D, 5D. Hein. On va peut-être pas se rentrer dans les détails, c'est bien expliqué dans l'envol. Mais ça a à voir avec tout ça.
Et les guides, là, ont choisi ce moment du premier confinement parce que c'était comme si c'était le point de départ.
L'envol, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà écrit un recueil de poèmes avant, plus un autre gros bouquin qui était plus théorique, mais déjà soufflé par les guides, mais pas suffisamment clair, je dirais. Donc, je les avais gardés dans mon armoire, même si ça m'avait pris beaucoup de temps. Et puis, à un moment donné, enfin, les guides m'ont dit, il faut que tu y ailles. Alors, il faut que j'explique quelque chose quand même qui fait que moi, c'est initiatique hein, pour moi ce livre aussi. C'est que, ayant été beaucoup abîmée dans mes autres vies comme chamane, sorcière, etc., thérapeute, soigneuse, tout ce qu'on veut dire, j'avais très peur parce que je me disais, mais transmettre à nouveau cette parole, ça c'était le cerveau primitif, c'était mes peurs à moi. Est-ce que cette fois-ci encore, je vais me faire malmener quoi? Et les guides m'ont dit non, cette fois-ci, il faut que tu y ailles, c'est le moment, c'est la période, il faut expliquer, il faut transmettre, tu le feras concrètement, fais-nous confiance. Donc ce que je veux montrer en disant ça, c'est que pour moi, c'est comme les autres, on me met des sortes de petits tests aussi. Et donc, ça s'est passé il y a à peu près 2 ans où là, je me sentais mais pressée quoi à écrire. C'était vraiment mais quand est-ce que tu t'y mets? On me poussait. J'avais pas forcément le temps, mais il fallait que je le trouve. Et c'était parce que comme justement cette période s'accélère mais vraiment très très fortement, les guides souhaitaient. Alors, je ne suis pas la seule encore une fois, mais je parle de moi ici, que je transmette à travers cet ouvrage des clés qui puisse être vibratoire et concrète pour que les personnes qui iraient par vague vers ce livre, c'est pour ça que c'est un livre et pas que des transmissions internet sur d'autres par d'autres manières, puissent avoir une sorte de. Au début, je voulais l'appeler manuel pratique pour évoluer dans un monde en mutation. Donc c'est vraiment ça, comme un guide du routard de ce qui se passe actuellement. C'est un peu ça. Et du coup, il fallait que je l'écrive, ce livre, à ce moment-là. Et ce qui est très magique, si on peut dire ça comme ça, parce que rien n'est magique, hein, c'est juste des synchronicités quand on est aligné, c'est qu'à un moment donné, au moment où je l'ai eu fini, j'avais deux éditeurs en tête à qui je l'ai envoyé. Mais pour Mama, qui m'a publié, je me suis réveillée un matin, alors c'est vrai que je lisais beaucoup déjà des publications qu'il faisait, avec le message des guides, de c'est là qu'il faut que tu l'envoies. Et à partir de là, tout a été fluide. C'est-à-dire qu'il a trouvé place dans cette famille, hein, parce que pour moi, c'est vraiment une famille énergétique, Mama Edition. Il a trouvé place au milieu de cette famille énergétique. Après, c'est quand même un livre, et ça, je le découvre. Comme pour moi, c'était naturel d'être Chanel depuis petite, je suis naïve du coup, hein. Je m'aperçois que finalement, il est relativement novateur, cet ouvrage. Alors que pour moi, ça me semble tellement naturel, tout ça, maintenant. Et du coup, parfois, il peut effrayer, alors bizarrement, pas forcément les lecteurs, qui eux ne sont pas, des retours que j'ai effrayés ni par l'épaisseur du livre, ni par ce qui est dit, parce qu'ils y vont avec parcimonie, pas à pas. Mais en tout cas, certains médias en ont encore un peu peur. Et là, j'ai compris que finalement, de ce fait-là, le message était quand même relativement puissant. Et moi, en fait, je suis la garante de ce livre aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis comme sa maman. Je dois juste être là pour que la parole puisse être diffusée de manière juste et l'aider à grandir. Voilà, sans ego, sans penser que ça c'est lié à qui je suis. En même temps, ce livre n'aurait pas pu être écrit si je n'avais pas eu tout le chemin dans cette vie-là personnelle que j'ai eue, qui a été assez difficile, hein, je n'avais pas choisi forcément un truc simple. Et dans mes autres vies, il fallait que je sois quand même suffisamment fluide et j'y veille tous les jours pour pouvoir écouter et transmettre cette parole.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de Chanel aux États-Unis. Il y a pas mal de livres qui viennent des États-Unis. D'ailleurs, Mama Édition a édité le livre de 7. Voilà. Et Mama Édition, j'avais interviewé ma première émission et avec Mishka, justement, cette femme qui a un destin fabuleux et que j'admire. Donc, c'est un très bon choix. C'est vrai
On va
qu'en
saluer
France.
Mishka parce que c'est une
Oui.
personne qui est tout amour. Et je
Ah
crois que
oui.
c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Donc vraiment,
Oui.
c'est magique.
Complètement, elle a une belle parole.
Dans l'envol, il y a un passage, si vous le lisez, où ils vous disent aussi qu'ils nous disent que justement, il faut veiller à qui l'on capte. Parce que je dirais qu'un Chanel capte à la hauteur vibratoire qu'il peut capter en fonction de qui il est aussi. Donc c'est normal aussi que certaines personnes, et c'est bien d'avoir son libre arbitre, hein, puissent être entre guillemets un petit peu méfiantes, on pourrait dire ça comme ça, lorsqu'elles lisent des propos. De toute manière, dans l'envol, et ils le disent clairement, on ne demande à personne de croire les choses. C'est bien là qu'on n'est ni des gourous ni une religion. On demande juste aux personnes de lire, de s'en imprégner. Et de faire soi ce qu'elles lisent pour justement en retirer substantifiquement elle. Hein, c'est vraiment ça. C'est pas d'adhérer comme on adhérerait à quelque chose. C'est pas du tout ça qui est attendu. C'est juste que ce livre puisse, et les paroles qu'on transmet, réveiller chacun, nous mettre chacun dans nos chaussures, sur notre voie. Puisque, alors ça aussi c'est très important à dire, ce que disent les guides aujourd'hui, c'est que sur Terre, on est venu être heureux et pas souffrir. Et ça, finalement, c'est encore assez nouveau. Hein?
C'est clair.
Voilà.
Alors, je suis d'accord avec toi parce que moi, j'ai déjà eu des livres de Chanel entre les mains que je n'ai jamais pu finir ou commencer, pour certains. Donc, il faut vraiment faire comme on le sent, aller, comme tu dis, pas à pas, prendre ce qu'on a envie de prendre là-dedans parce que c'est notre chemin d'évolution. Et puis, ne pas se prendre la tête à savoir, à chercher toujours le pourquoi du comment. Ça, je suis vraiment d'accord.
Ouais, se laisser imprégner, hein, c'est vraiment ça dans cette période. Hein. Il y a deux termes qu'il me disait là encore ce matin, quand je commençais à me centrer avant cet entretien avec toi. Cette période, elle est particulière parce qu'on nous demande de lâcher prise. Alors, qu'est-ce que lâcher prise? Ça aussi, moi, quand on me disait, je me disais, mais c'est bien beau, ça veut dire quoi? C'est simplement de comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne peut pas tout contrôler par peur. Donc, lâcher prise, c'est accepter ce qui est en essayant d'en comprendre le sens et ce que ça nous apprend, si on peut dire ça comme ça, ce que ça nous fait polir à l'intérieur de nous. Et en même temps, alors ça peut paraître un peu antinomique, se positionner. C'est une période où il nous demande, et là c'est de plus en plus pressant, hein, vraiment dans les messages que j'ai, c'est se positionner. Alors se positionner, ça veut dire quoi? C'est se positionner intérieurement. Déjà, c'est voilà, je suis telle personne, est-ce que je vais prendre un peu tous les aspects de ma vie? Et puis, est-ce que chaque aspect est encore juste pour moi? Est-ce que cet aspect me met en joie? Est-ce qu'il me rend triste? Pourquoi? Jusqu'à quel point je peux agir sur ces aspects-là? Et comment je peux le faire? Ça, c'est vraiment être acteur, comprendre que c'est nous qui créons aussi nos vies. Alors ça, c'est un changement parce que dans ce cas-là, on ne peut plus être victime.
Nous créons nos vies, mais avec le libre arbitre que l'on possède. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant qu'on n'a pas pu reprendre les commandes de qui nous sommes, on est un peu comme des pantins qui sont agités par nos croyances, par la peur, par tout ce qu'on nous dit, par tout ce qu'on a entendu, etc. Et ce n'est pas un jugement que de dire ça, c'est juste un constat. Donc plus on va comprendre et chercher dans nos vies ce qui n'est pas juste, plus on va être heureux, moins on va créer une vie qui est compliquée, plus les nœuds vont se défaire. Ça, c'est vraiment des choses importantes. Et du coup, se positionner, c'est individuel, mais c'est aussi collectif. Et là, je ne vais pas non plus être du tout dans la polémique, puisque moi, ce n'est pas mon rôle, mais c'est faire des choix conscients et pas des choix dans la peur, dans tout ce qu'on vit, en individuel et en collectif. C'est vraiment ça. Et là, il y a urgence, puisqu'on sent bien qu'on est dans un monde, une société où ça bouge beaucoup et tout ça a un sens.
Rechercher la joie aussi partout, ce que tu disais,
Oui.
mettre la joie en priorité, être heureux malgré tout ce qui peut se passer, parce que c'est vrai que parfois ça peut sembler difficile si on est effectivement dans une recherche de toujours d'extérieur, de faire comme avant, on ne pourra pas être heureux. Et là, essayer de trouver le bonheur à l'intérieur de soi, et enfin, il est à l'intérieur de soi de toute façon, mais qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à ça? C'est en se repositionnant qu'on va pouvoir trouver cette étincelle de joie.
Alors, il y a surtout vivre le moment présent. Et ça, finalement, on l'a tous, qui qu'on soit. Moi, je l'ai expérimenté ça aussi, hein, surtout dans la famille dans laquelle j'étais arrivée, où il n'y avait que le mot peur qui. C'était le peur, la peur et le besoin d'être parfait. Donc, je suis partie de loin, hein, moi aussi, hein. C'est vraiment ce que je veux dire, c'est que en vivant le moment présent, c'est accepter que de toute manière, le passé, il est passé, il ne peut plus rien, et que le futur, c'est nous qui allons l'écrire. Donc, en étant dans la peur, on se bloque et à la limite, on crée l'inverse de ce qu'on voudrait créer avec nos peurs. Donc, c'est juste déjà être dans le moment présent, accepter ce qui est, essayer de regarder avec d'autres yeux aussi le monde qui nous entoure, nos vies, etc., pour en tirer ce qui est le plus bénéfique, le plus joyeux, l'alimenter. Et puis, oui, reconnecter vraiment la joie qui est en nous, parce que quand on regarde comment on était à 2, à 3 ans, bon, ça dépend bien sûr de ce qu'on a vécu petit aussi, hein, mais un enfant, il est dans le présent, il est dans la joie, il est dans l'amour. Donc c'est reconnecter notre, quand on appelle ça l'enfant intérieur, c'est vraiment ça, notre enfant intérieur, et aller soigner les endroits où il a été blessé, puisque en grandissant, on commence à se heurter un petit peu aux épineux qu'il y a dans ce monde-ci aussi. Hein, donc voilà, c'est vraiment faire ce double mouvement-là. Et puis après, c'est oser aussi s'affirmer dans qui nous sommes, même si ça ne fait pas plaisir à ceux qu'on aime et à ceux qui nous entourent. On n'est pas là pour se faire aimer des autres, on est là pour s'aimer soi-même. Et là, il y a un grand, grand enjeu, et ça peut même presque être le travail de toute une vie déjà.
Oui, ça s'entend comme ça quand même, comme un travail de toute une vie. Il y a de l'urgence, mais il n'y a pas d'urgence quand même.
Non, alors il y a les deux. Il y a de l'urgence dans le sens où, à partir du moment où on vit dans un collectif, on va dire que ce collectif crée un égrégore. Un égrégore, c'est une sorte de grosse structure vibratoire qui reflète ce que pense la majorité des personnes et leur niveau vibratoire. Donc il y a urgence dans ce sens-là, parce que comme c'est une période d'ascension, plus on sera nombreux à se réveiller, à être nous-mêmes, à comprendre ce qui se passe, à comprendre où on est attendu, plus ça sera léger pour le collectif et plus on va tirer aussi ceux qui ont un peu plus de mal à se réveiller vers leur propre lumière. Donc là, dans ce sens-là, il y a urgence. Et c'est bien tout le problème de cette vie-là, c'est-à-dire que d'un côté, il faut aller vite et de l'autre côté, il faut aller à notre rythme. Et puis de l'autre, il n'y a pas urgence dans le sens où on ne peut pas de toute manière griller les étapes à l'intérieur de soi. On est obligé d'aller à son rythme, en respectant notre rythme. Donc dans ce sens-là, il s'agit juste de s'écouter et d'essayer par contre d'être constant. C'est-à-dire de ne pas un jour se dire, ça c'est comme quand on se met au sport, je ne suis pas une grande sportive moi, hein, mais voilà, aujourd'hui je vais aller courir 4 km, puis après je ne fais plus rien pendant 3 mois, quoi. C'est vraiment un travail régulier sur soi que devrait à être juste qui nous sommes, à notre rythme.
Oui, mettre toujours de la conscience, quoi qu'on fasse, essayer de
Conscience, 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 oui.
Comment tu pourrais définir le voyage quantique? Parce que je l'ai dit en introduction, mais pour toi, ça représente quoi le voyage quantique?
Déjà, ce qu'il faut comprendre dans cette période, c'est qu'on est en train de quitter. Alors, il l'explique dans l'envol, ça paraît très théorique, mais je vais le dire de manière assez concrète. On est en train de quitter le monde de l'espace-temps. Qu'est-ce que c'est que le monde de l'espace-temps? C'est un monde où on veut tout prévoir, où on veut tout contrôler, où on segmente le temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pour exister, il faut que tout soit rythmé, où on est dans le faire. Et on oublie l'être, hein, c'est le faire qui rythme nos vies, où on est dans le passé, le présent, le futur, où on est dans une sorte de perception du monde qu'à travers nos sens physiques. Et en fait, le voyage quantique, c'est ce qu'on est en train tous de vivre, c'est-à-dire qu'on est en train de changer d'univers pour passer dans le temps-espace, qui est une forme de vibratoire où justement règne l'unité, où rien n'est segmenté, où le temps n'est plus fini et où on appréhende le monde par la conscience. C'est comme ça qu'on arrive à appréhender le monde, donc par d'autres sens. Et en ce moment, on est en train tous de faire ce voyage quantique. Il n'y a plus de faire dans le quantique, c'est l'être. Il n'y a plus de passé, de présent, de futur, c'est un éternel présent. Et du coup, comment on fait? Eh bien déjà, si on arrive et c'est tout un enjeu, ça aussi, à se sortir du rythme du temps qu'on s'est mis sur Terre, qui nous a rassurés, et on passe dans une autre dimension à ce moment-là, où là, on commence à appréhender les choses avec d'autres sens, et on fait un autre voyage à l'intérieur de soi. Hein, on fait effondrer vraiment le temps pour expérimenter l'espace. Et ça, ça fait lien après avec d'autres notions, hein, par rapport à nos différentes existences, etc.
Ça fait lien avec ces existences-là, ça fait lien aussi avec la mort.
C'est ça.
Qui n'existe plus dans ces cas-là, enfin n'existe plus dans la manière dont on se l'est représenté pendant pas mal d'années, on va dire pas mal de siècles.
Alors sur la mort, bon, il y a une chose que j'explique beaucoup aux personnes aussi, c'est que même si on est très conscient que la mort n'existe pas, même si on sait que c'est un passage, même si on commence à vraiment comprendre ce qui s'y passe après, forcément que quand on est dans un corps de chair et qu'on côtoie la mort d'un proche ou même en collectif, hein, on est impacté parce qu'on est des êtres de chair. Donc, il ne s'agit pas de se dire « mais là, ça ne va pas, je n'ai pas compris qu'il était libéré, maintenant il va être très bien, etc. » Non, c'est d'accepter cette tristesse qui est surtout celle de perdre l'être que l'on avait à côté de soi dans la forme où il était, dans le fait de pouvoir le serrer dans ses bras, dans le fait de pouvoir parler avec lui. Il faut vivre cette période-là. Mais après, c'est de se dire que si la personne part à ce moment-là, c'est sans doute, alors il y a des petites nuances encore là, qu'elle avait choisi pour elle de quitter cette dimension-là à ce moment-là. Et du coup, ça nous ouvre aussi à se dire, à un moment donné, il faut que je cesse de pleurer pour moi, de me pleurer dessus, comme on dit, et que je pense plutôt à l'autre. Mais c'est tout un chemin, tout ça. Hein. On le vit tous.
Oui, c'est toute une vie. Moi, ça me le fait aussi avec mes animaux. Hein.
Oh ben là, moi, les animaux, c'est quelque chose, j'ai été bien, bien, bien testé là-dessus récemment.
Oui. Ouais, j'imagine. Et je voudrais en venir à ton projet. Tu connais très bien Alexandra Dugas, que j'ai aussi interviewée, qui vit en terre sacrée Maasai, et tu vas organiser un voyage avec elle. Tu nous as expliqué en début d'émission que les femmes africaines t'avaient beaucoup apporté par rapport à la féminité. Est-ce que c'est un prolongement de cette expérience? C'est pour ça que tu as voulu aller en terre Maasai? Tu as eu un appel de la terre Maasai aussi?
Ce que je voudrais dire aux personnes aussi, c'est que ce que j'ai découvert, parce que moi, je suis à la fois très connectée et très ailleurs, et en même temps quand même ancrée, c'est que c'est tellement naturel plein de choses pour moi que finalement, j'en prends conscience après. Je me suis aperçue que j'étais très connectée et très guidée aussi par mes guides. On l'est tous, mais on ne l'écoute pas forcément. Et pour mes 50 ans, en fait, ça a commencé un peu comme ça. Hein. Donc là, ça fait 6 ans de ça. J'avais été attirée par les ouvrages de Xavier Perron, hein, qui est un ami maintenant. Et du coup, je m'étais dit, je ne le connaissais pas du tout, hein, mais j'étais poussée à faire ça. J'ai contacté Xavier, je lui ai dit, écoute, je vais réunir une bonne partie de ma famille pour mes 50 ans. Je te convie, on avait loué une maison, à venir passer un week-end avec nous. Et puis, sur une première partie du week-end, tu vas nous transmettre cet enseignement avec mes proches. Donc, j'avais offert ça à tous mes proches. Et du coup, Xavier a passé après toute la soirée avec mes amis et toutes ces personnes-là. Et puis, je m'étais dit, il faut absolument que j'aille en terre Maasai.
Voilà. Et ça s'est pas fait pour des raisons de santé d'un de mes proches à ce moment-là. Et puis là, donc il m'a fait connaître Alexandra également. Et puis là, donc l'idée est revenue à travers mes guides de me dire, c'est le moment que tu y ailles, mais cette fois-ci, c'est toi qui dois les transmettre dans ce lieu-là. C'est-à-dire que ce n'est pas d'y aller, et ce n'est pas du tout là encore un jugement, hein, c'est un fait, c'est mon chemin. Encadré dans un voyage avec Xavier, d'ailleurs ça ne s'est pas fait, même si c'est un très bon ami, mais c'est d'y aller moi, dans ce lieu-là, porter la parole de ce collectif. Et pourquoi les Maasai? Alors ça, c'est quelque chose qui est très très fort en moi, je pense que c'est lié à mes vies de chamane, mais le dire encore aujourd'hui, j'ai envie de vous le dire, je vous le dirai quand je reviendrai, parce que je sais qu'il y a quelque chose pour moi de très important là-bas, que ça va être très initiatique également pour moi, mais je ne sais pas encore exactement quoi. Donc je pense que je vais reconnecter vraiment quelque chose de très important pour moi. Par ailleurs, le message qu'il porte, bien sûr du coup à travers les livres aussi de Xavier, me parle tout au fond de moi. Et je pense que de toute façon, tous les peuples premiers aujourd'hui sont vraiment très importants pour nous, puisqu'ils sont là, et ça c'est quelque chose qui peut choquer que d'entendre ça, mais c'est, moi j'entends que c'est le cas, pour nous permettre justement de vraiment reconnecter qui nous sommes, parce que eux, pour une grande majeure partie, ils ne l'ont pas perdu ça. Donc vraiment, ils sont là, c'est des grands frères. Donc c'est vraiment, en plus ce lieu, cette forêt, la matière, hein, cette forêt sacrée. Alexandra est une personne que, en tant que Léna incarnée, j'admire énormément parce que je trouve que son parcours initiatique qui l'a conduit à aller vivre chez les Maasai est juste admirable parce qu'il illustre pleinement tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire comment, quand on est poussé à aller vers soi, ça peut bouleverser toute notre vie jusqu'à des points comme le sien. C'est magique quand même d'avoir osé et c'est vivre tout ce qu'elle a vécu. Hein. Moi, je voilà.
Ça fait des frissons quand tu le dis, mais c'est vrai, c'est tellement. Il y avait tellement tout qui pouvait aller contre sa décision que elle a bravé tout ça. Elle a bravé tout.
Et notamment les jugements des uns, des autres, etc. Hein. C'est vraiment important. Et puis, quoi de plus harmonieux que d'aller transmettre justement des paroles telles que vous pouvez lire dans l'envol dans un lieu comme ça? C'est tout à fait la même chose que ce que disent les massages, dit d'une autre manière. Et eux, ils l'incarnent pleinement en plus. Donc vraiment, on aura la partie où moi, je vais pouvoir transmettre tout ce qui m'est dit, où je vais aussi le faire dans des exercices très pratiques et où on va partager tout l'autre temps avec cette communauté Maasai. Donc, c'est juste magique. Et je n'y vais pas seule. J'y vais avec Alizé, d'Anima Homme, qui est une jeune femme, en fait, qui est très connectée depuis l'enfance et qui, elle, a une connexion très, très naturelle au vivant, c'est-à-dire à la nature et aux animaux. Elle est en train d'en faire son métier, hein, et elle connecte particulièrement bien la nature, les animaux, elle les capte, elle communique avec eux, et du coup je l'ai invitée à se joindre à moi sur une partie du séjour pour qu'elle intervienne sur cette partie de vraiment de transmission de la reliance au vivant, de l'importance de se relier aux animaux, aux végétaux aujourd'hui, et de comment on peut collaborer ensemble à établir ce qu'on appelle, c'est un peu galvaudé ce thème, mais c'est ce terme, cette nouvelle terre. C'est vraiment ça. Donc, ça va être vraiment un moment à la fois, comment on va dire, initiatique pour chacun par rapport à son propre chemin de vie, un moment de partage en tant que groupe dans un endroit particulier, parce que je pense qu'aucun groupe ne se constitue par hasard. Donc, les personnes qui seront là seront juste au bon moment ensemble, au bon endroit. Et puis accompagné par des êtres enfin vraiment qui, pour lesquels j'ai beaucoup beaucoup de respect, que sont cette communauté Maasai au sein de laquelle vit Alexandra aujourd'hui. Donc ça a été une synchronicité, c'est qu'avec Alexandra on s'est parlé. Alors quand même pour dire les choses aussi, j'ai une autre personne qui est devenue une amie, qui est allée récemment justement en janvier vivre avec Xavier ce temps au niveau de cette communauté de Maasai. Et elle a apporté mon ouvrage, elle l'a offert à Alexandra qui n'arrivait pas à se le procurer. Et c'est ce qui a fait étincelle, c'est-à-dire qu'avec Alexandra, même si on se connaissait, de suite on s'est contacté en se disant « mais il faut qu'on fasse quelque chose ensemble là-bas ». Donc voilà, tout s'est mis en place très très naturellement finalement. Et comme vous pouvez le constater, les personnes qu'on nous met sur notre chemin, dont Sandrine hein, qui a offert ce livre, c'est jamais par hasard. Ça va être un bon moment de transmission, de partage, de communion, d'amour entre les personnes. Hein, puisque là aussi, ce que dit le collectif, c'est que qu'est-ce qu'on est venu faire tous sur Terre? c'est expérimenter ce qu'est l'amour.
Et on l'a oublié tout le temps.
Elle oublie tout, hein, parce que bon, voilà, on se laisse prendre par le flot de tout ce que l'on a, tout ce qui nous impacte, tout ce qui est dans notre vie. Je vais quand même laisser, si c'est possible, mon adresse mail pour les personnes qui souhaiteraient me joindre. Donc, on peut me joindre à lena-du6favre12753@gmx.fr. Et en général, quand je peux encore prendre le temps, et je le prends, j'appelle les personnes parce que j'aime, moi, l'échange, le contact avec les gens. Donc, que ce soit pour les accompagnements que je propose ou que ce soit pour le séjour, vous pouvez passer par ce mail-là.
Oui, parce que tu fais des soins énergétiques, de la canalisation avec l'envol d'essence, tu vas développer, de soi plutôt, tu vas développer, c'est un beau lapsus que j'ai fait.
Oui, c'est vrai.
Donc, tu vas développer justement certainement d'autres camps avec Alexandra ou ailleurs.
Oui, c'est ça. Alors après, avec Alexandra, ce qu'on s'est dit pour les personnes, c'est que là, le mental, il est toujours très fort encore chez nous. On ne veut pas donner trop le programme parce que l'idée, c'est de se déconnecter du mental. Hein, et justement de reconnecter cette partie de nous qui n'est pas dans le mental. Donc, quand les gens me contactent, je donne un petit déroulé de ce qui va se passer, mais pas le contenu complet. Alors, il y aura de la transmission théorique où je vais expliquer énormément de choses de ce qui se passe actuellement. Il y aura des exercices, mais ça va être surtout aussi qu'est-ce qu'on va vivre dans ce moment-là qui va être important. Voilà, qu'est-ce qui passe à travers moi? Qu'est-ce que je véhicule? En fait, je me sens poussée aussi à aller là-bas. Et je pense que si les guides m'y envoient, ce n'est pas pour rien. Et je découvrirai sans doute pourquoi. C'est quelque chose qui me tient à cœur quand même depuis 2015. Hein. Donc voilà, hein. ça vient à point nommé. Ça voilà. Aussi, je veux dire aux personnes. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on est un peu impatients, les humains. Et moi, j'étais aussi impatiente. Et les guides nous disent, mais pas à pas, ce n'est pas le moment.
Oui, j'allais le souligner aussi, très important, persévérance, patience et amour.
C'est ça, les trois. Et puis aussi comprendre que on est tous reliés les uns aux autres et que surtout dans cette période, en fait, il ne faut pas se laisser embarquer ni par la peur ni par la division. Il faut qu'on soit capable de rester dans l'amour, le respect, l'unité, etc. Ça, c'est vraiment très, très important, je pense, dans cette période.
Oui, quoi qu'il se passe, chacun a son chemin et ne pas juger, en fait, et continuer son bout de chemin.
Et par contre, ne pas avoir peur non plus, à partir du moment où on le fait avec des mots adaptés et de manière adaptée, à dire qui l'on est et quelles sont nos croyances à nous, hein, comment on voit le monde. Hein, faut pas, ça, c'est, on est là aussi pour ça.
Merci beaucoup, Léna, pour ton témoignage.
Merci beaucoup, Corinne, et puis belle journée à tous et à toutes.
Merci pour votre écoute. Vous avez aimé? Alors abonnez-vous et n'hésitez pas à partager. À très vite sur Écoute Voyageuse.